Mercredi 28 octobre 2020, merci de nous recevoir pour cette édition de 18h. Vous écoutez les programmes du studio Kalangu en compagnie de Rukaya Abdrahman. Au sommaire, cette nuit, la communauté soufie de la Oumma islamique célébrera le Mouloud, date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Cheikh Barham Boubacar nous parle des préparatifs de la fête à Tchota, région de Dosso, dans ce contexte de Covid-19. La journée mondiale du cinéma d'animation est célébrée chaque 28 octobre en Afrique. C'est le Nigérien Feu Mustapha Alassane qui est le pionnier de ce genre cinématographique. Son fils nous parle de comment est née la passion de son père. Prévenir les risques de catastrophe est possible selon un spécialiste de la cellule du système d'alerte précoce au Niger. Dans la partie magazine de ce soir, Adamu Umaru explique la situation. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au Niger, la communauté soufie de la Oumma islamique célébrera cette nuit le Mouloud, date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Habituellement, c'est à Tchota que convergent des milliers de fidèles du Niger et d'ailleurs, cependant, cette année, la célébration se fera dans un contexte de pandémie qui a nécessité un dispositif particulier, a déclaré Cheikh Barham Boubacar, président du comité d'organisation du Mouloud de Tchota, des propos recueilli par Barham Hassoumi depuis Tchota.
Cette question de Covid a eu pour conséquence la fermeture de frontières terrestres de notre pays, ce qui veut dire que l'afflux de visiteurs qui nous viennent des pays voisins risque de ne pas être le même cette année. Le Mouloud est un événement très populaire, ne serait-ce que les visiteurs internes du Niger, à eux seuls, ils vont remplir la ville de Tchota. Les mesures barrières doivent être observées strictement. Le contrôle aux barrières avec des pistolets électroniques, etc. Les gens vont tout faire pour respecter ces différentes barrières. D'ores et déjà, les dispositifs sont en place. Le ministère de la Santé a mobilisé diverses équipes de très très grande taille pour encadrer l'événement dans le sens de la protection des participants par rapport à la COVID-19.
La journée d'aujourd'hui, 28 octobre, est dédiée au cinéma d'animation. Depuis 2002, près de 40 pays commémorent cette journée. Au Niger, c'est le réalisateur Feu Mustapha Alassane qui est l'initiateur de ce genre cinématographique dans les années 60. Il est aussi le pionnier du cinéma d'animation en Afrique avec son premier film en 1966 intitulé « La mort du Gandhi » qui signifie en français « La mort du génie ». Comment est né le cinéma d'animation avec Mustapha Alassane? Réponse avec son fils Abdoulaye Wahab Mustapha Alassane, lui-même réalisateur.
Mustapha Alassane a découvert le cinéma de l'animation pendant son séjour au Canada dans les années 60. Il a commencé son premier film d'animation dans une chambre d'hôtel où il avait des calques et il faisait des croquis. Il faisait des captures qu'il a assemblées, qui a donné un film qui était son premier film d'animation. Je me rappelle bien, c'était La mort du Gandhi en 66. Après, ça a continué par le cinéma d'animation de façon classique, image par image, jusqu'aux années 80. Il a commencé à faire le cinéma digital et c'est en ce temps que nous sommes arrivés dans le cinéma. On a commencé un peu à suivre les pas. Présentement, je dirais que le cinéma d'animation au Niger rencontre plein de difficultés. D'abord, c'est la formation. On a vu plusieurs fois de cette cartoon qui sont là, plusieurs petits spots, mais ça ne donne pas l'effet animation qu'on veut. Et ce qu'on pourrait apporter à ces jeunes, c'est des formations. Parce qu'on a des jeunes qui ont envie d'embrasser cette carrière. Ils n'ont pas les moyens, par la formation requise.
Propos recueillis par Rahilatou Soumana. Une rencontre dénommée Grande Rencontre Citoyenne est prévue début du mois de novembre prochain entre le président de la République Issoufou Mamadou et la jeunesse nigérienne pour un partage d'expériences. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Renaissance culturelle Assoumana Malan Issa lors d'un point de presse à Niamey. Assoumana Malan Issa est au micro de Nafissa Adamou Sirfou.
Au niveau du ministère, nous avions voulu depuis 2018 que chaque année nous fassions ce qu'on appelle la rentrée citoyenne. Et lorsqu'on avait commencé cette idée, je me suis rappelé qu'une jeune dame m'avait déjà donné le projet, que d'autres jeunes m'ont approché pratiquement dans le même esprit. Je leur ai dit, mettez-vous ensemble, proposez-moi un seul projet. Ils ont réussi à proposer la grande rentrée citoyenne et le ministère s'est associé. C'est donc, dans un premier temps, une rencontre entre le président de la République, son excellence Issoufou Mahamadou, et les jeunes. C'est partager cette expérience de leader avec les jeunes qui nous paraît être le plus grand objectif de la grande rencontre. 5 panels vont être organisés et on a sélectionné 20 jeunes par région. On va alterner ces rencontres théoriques avec des visites de terrain, procéder à des actions d'intérêt communautaire qui vont cimenter les moments creux entre le panel et puis la grande rencontre avec les responsables du pays.
Une personne a été tuée samedi dernier dans le département du Boboye, région de Dosso, lors d'une altercation entre un propriétaire de champ et un éleveur. Celui qui a commis le forfait s'est enfui, souligne le secrétaire général de la Fédération nationale des éleveurs de Dosso. Pour éviter ce genre de situation, chaque localité fixe une date de libération des champs, explique Manga Omar au micro de notre correspondante Nana Hadiz Hassan.
Ça s'est produit le samedi passé. Un éleveur qui a introduit ses animaux dans un champ, ça s'est soldé avec la mort d'un homme. Et celui qui a commis la meurtre, il est toujours en fuite. Comme chaque année, vous savez qu'il y a une date de libération des champs. Le Kogoro, c'est dans le département de Boboye. Ils ont proposé la date du 30 novembre pour la libération des champs. Et si déjà les éleveurs ont introduit les animaux dans les champs, donc cela veut dire qu'ils n'ont pas encore attendu la date. Les animaux sont à la fourrière. Ce n'est pas normal d'introduire des animaux dans les champs tant qu'il n'est pas date de libération des champs. Les problèmes se posent pas seulement au niveau des éleveurs, mais aussi au niveau des agro-pasteurs et agro-éleveurs. Donc, une fois qu'ils finissent de récolter les champs, ils introduisent eux-mêmes leurs animaux dans les champs. Donc, ça, c'est un problème. Et c'est souvent c'est ce qui attire les autres éleveurs, surtout les transhumants qui sont des passages. Donc, ce que nous demandons, même si tu as tes animaux, tu as fini les champs, il faut attendre la date.
Pour prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN, estime qu'il faut multiplier les sensibilisations sur les causes de ces conflits auprès des deux camps. Pour venir à bout des éventuels affrontements, les autorités locales ont la charge de faire respecter les dates de libération des champs, explique Mohamed El-Hajj El-Mansour, joint au téléphone par Aïla Toussoumana.
Les éleveurs transhumants qui viennent, qui remontent vers le nord, c'est des transhumants qui viennent d'ailleurs. Et généralement, c'est pendant le retour et au moment où il y a cette question de libération des champs où nous constatons des conflits. Généralement, il y a certains éleveurs qui essaient de descendre précocement avant la date de libération, ce qui n'est pas bien. Il y a également des agriculteurs, également eux aussi, qui ne respectent pas de libération des champs. Donc, ce genre de comportement-là font partie de certains conflits. Et c'est là où les maires doivent jouer un grand rôle de sensibilisation. Mais vous savez, il y a certains comportements plus ou moins culturels où les gens sont habitués de rejoindre les résidus de culture. Il y a plusieurs types d'élevage. Il y a un élevage qui a un rayon de nomadisme très réduit. Il y a d'autres qui font la longue transhumance. Ils viennent d'ailleurs, ils attendent l'approche de l'abrogation des champs pour se précipiter à aller vers les résidus de culture. Il faut nécessairement la sécurisation du pâturage, comme on nous le demande partout. Deuxièmement, la sensibilisation de tous les acteurs.
Cette année, plusieurs collèges d'enseignement général CEG ont été transformés en CES, complexes d'enseignement secondaire, et d'autres CEG ont vu le jour. Selon le directeur régional des enseignements secondaires, ces créations interviennent dans le but de décongestionner certains établissements et pour réduire la distance parcourue par les enfants pour rejoindre leurs établissements. Saleh El-Hajj Labo de la direction régionale de l'enseignement secondaire de Zender explique au micro de Mustapha Mansagne.
Pour le compte de la région de Zender, nous avons bénéficié de 5 créations de CEG, tous en zone rurale, et de 13 CES, dont 2 en zone urbaine et 11 en zone rurale. Alors, ces différents CEG ont été créés dans le but de décongestionner les enfants CEG. Les enfants font parfois 40 à 50 km pour rejoindre leur CEG. Les élèves de Guilimouni doivent aller jusqu'à Takaya. Donc, ils sont vraiment un peu défavorisés par rapport aux distances. Avec le programme sectoriel de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui est devenu aujourd'hui le programme de transition du secteur de l'éducation et de la formation, nous avons un nombre important de classes qui est programmé pour remplacer les payotes. Donc, ça va nous permettre maintenant de pouvoir subvenir aux besoins de ces établissements-là en matière de classes pour accueillir tous ces élèves-là du second cycle qui vont arriver et du premier cycle pour les collèges.
Le premier bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Niger, CENOP, a été mis en place le 22 octobre 2020 à Niamey. Composé de 7 membres pour un mandat de 3 ans, l'Ordre a pour mission de lutter contre l'exercice illégal de la profession et de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie, explique Dr Aliou Amadou Maïga, le président de l'Ordre des pharmaciens. Il est au micro de Adama Dawaki.
Avoir cet ordre, d'abord, c'est dans l'intérêt de la santé publique, c'est dans l'intérêt des populations. Pour exercer la profession de pharmacien, il faut avoir un diplôme d'état en pharmacie. Donc, il faut contrôler les diplômes, il faut contrôler la moralité du pharmacien pour garantir la qualité et la sécurité aux patients. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas laisser les médicaments dans la main des non-praticiens, dans la main des non-pharmaciens, que nous appelons charlatans. Malheureusement, aujourd'hui, le Niger est le pays où il y a plus de vendeurs de rue. Ils vendent sans être inquiétés, ils n'ont même pas peur. Et ça, c'est déjà un problème très grave. Il y a les faux dépôts, il y a les faux laboratoires. Donc, qui peut les dénoncer? C'est le professionnel qui a les connaissances qui peut dénoncer. Donc, aujourd'hui, le premier travail, c'est de recommander à l'État de mettre les médicaments dans les pharmacies. En cas de faute, il y a une chambre disciplinaire dans laquelle il y a un magistrat. Par exemple, en 2013, il y a un camarade qui a aidé un commerçant à faire des importations. L'ordre a vérifié pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. L'ordre l'avait blâmé et l'avait sanctionné pour 3 mois.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition. Au Niger, prévenir les risques de catastrophe est possible selon un spécialiste de la cellule du système d'alerte précoce. Il précise qu'en se basant sur les prévisions de la saison des institutions spécialisées sur le climat, sur la météorologie et sur l'hydrologie, des dispositions pourraient être prises davantage pour éviter certaines situations comme les inondations enregistrées dernièrement dans le pays. C'est ce qu'explique Amadou Oumarou, chef du département coordination de la plateforme nationale de prévention des risques de catastrophes.
La plupart des catastrophes sont d'ordre climatique. On ne peut pas empêcher une sécheresse, on ne peut pas empêcher aussi les fortes pluies, mais si nous savons qu'il y a fortes pluies par exemple, on peut prendre des dispositions pour que quand ces fortes pluies vont arriver, qu'elles soient bien canalisées. Il y a aussi l'aspect changement climatique qui rentre dans la chose. Ça fait en sorte que ce que vous avez l'habitude de voir là, ça va augmenter en intensité et vous allez voir même des choses que vous n'avez jamais vues.
Oui, est-ce qu'on peut prévenir les risques de catastrophes?
On peut les prévenir justement. La météo, l'hydrologie, le CILS, le Centre Régional Agrimètre, plus beaucoup d'autres partenaires, l'ACMAD. Tout ce donc dans leur prévision de la saison, on a prévu de grandes quantités de pluie, plus que la normale. Donc si il doit pleuvoir plus que ce que nous connaissons, ça veut dire que nous devrons prendre des dispositions plus que ce que nous avons l'habitude de prendre aussi. Malgré ça, ce qui est arrivé cette année est allé au-delà de ce que nous pensons. Donc ça veut dire qu'on peut prévenir.
Et gérer
justement. Je n'attends pas que ça arrive. Nous sommes présentement dans une campagne qu'on appelle Sunday 7. Cet objectif, donc chaque année, on fait la promotion d'un objectif. Ça a commencé en 2016. Nous sommes cette année au 5e objectif du cadre de Sunday. La première année, donc en 2016, on avait fait la promotion, c'est-à-dire il faut réduire le nombre de pertes en vie humaine liée aux catastrophes. Il faut réduire le nombre de personnes affectées. Il faut réduire les pertes économiques dues aux catastrophes. Il faut réduire les perturbations des services de base liées aux catastrophes. Donc c'était la promotion de ces 4 que nous avions fait donc les années précédentes. Cette année, il faut que chaque pays est une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe.
On sait que pour gérer les catastrophes, il faut mobiliser beaucoup de moyens. Est-ce que le Niger a les moyens de faire face à toutes ces catastrophes?
Même s'il n'a pas les moyens, il doit se donner les moyens. Parce que c'est la protection de la vie humaine. Et la vie humaine est sacrée. Tout citoyen a le droit d'être protégé par son pays.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours au rythme du Niger sur Studio Kalangou. Au revoir.